m'appelle Robert. J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre magazine d'échange citoyen. Parole aux auditeurs. L'Assemblée nationale a adopté ce mardi les rapports de la commission ECOFIN sur le projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2023 et les collectifs budgétaires 2024. Et dans son rapport, la commission ECOFIN, après examen approfondi, a retouché le recel du budget général de 2024 à 36,470 milliards de francs congolais, avec un accroissement de 20,4% par rapport à 2023 et au regard des différents détournements des deniers publics et des dépassements budgétaires constatés, la commission a proposé la mise en place d'une commission d'enquête sur l'utilisation des fonds alloués au programme des 145 territoires. Par ailleurs, lors de sa présentation de l'économie du rapport général des travaux, le président de l'ECOFIN a précisé que sa commission a attiré son attention particulière sur les secteurs vitaux, notamment la santé et l'éducation. Comment commentez-vous cette actualité? Vos actions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiokapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant 09-716-80-79. Paul Ba Dianyama est à la mise en œuvre de ce magazine et je le fais ça sur la réalisation et la coordination au micro. C'est Marcel Ngomombala, toutes et à tous, et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs, et aujourd'hui nous parlons de ce rapport de la commission ECOFIN sur le projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2023 et les collectifs 2024 qui a été adopté ce mardi par les députés nationaux. Et au regard des différents détournements des deniers publics et des dépassements budgétaires constatés, la commission a proposé la mise en place d'une commission d'enquête sur l'utilisation des fonds alloués au programme des 145 territoires. Par ailleurs, lors de sa présentation de l'économie du rapport général des travaux, le président de l'ECOFIN a précisé que sa commission a tiré son attention particulière sur les secteurs vitaux, notamment la santé et l'éducation. Vous avez été nombreux à réagir par rapport à ces sujets sur la page Facebook Parole Auditeur. Nous vous disons merci. On va lire quelques-unes de vos actions au cours de ce magazine. Et pour commenter ces sujets, nous avons en ligne Lems Kamwanya, analyste économique. Lems Kamwanya, bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation pour échanger avec les auditeurs par rapport à ce rapport de la commission ECOFIN sur le projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2023 et les collectifs budgétaires 2024. Dans son rapport, la commission ECOFIN, après examen approfondi, a retouché les recettes du budget général de 2024 à 36,470 milliards de francs congolais, avec donc un accroissement de 20,4% par rapport à 2023. Mais au regard des différents détournement des deniers publics et des dépassements budgétaires constatés, la commission a proposé la mise en place d'une commission d'enquête sur l'utilisation des fonds alloués au programme des 145 territoires. Également aussi, lors de sa présentation de l'économie du rapport général des travaux, le président de l'ECOFIN a précisé que sa commission a attiré son attention particulière sur les secteurs vitaux, notamment la santé et l'éducation. Alors, qu'est-ce que vous faites d'entrée de jeu? Qu'est-ce que vous faites comme analyse de ce rapport de la commission ECOFIN sur le projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2023 et les comptes budgétaires 2024?
Oui, merci pour la question et pour l'invitation à participer à cette émission. La première des choses, je dirais que l'Assemblée nationale est dans son rôle, parce que c'est au fait l'Assemblée nationale qui est l'autorité budgétaire. Et quand nous regardons les rapports qui ont été faits, je vois il y a deux aspects. Sur l'aspect finance, ils essayent de regarder comment on peut améliorer l'ensemble des recettes de l'État. Peut-être là, les rapports pouvaient encore être plus explicites en nous disant quelles sont les niches fiscales ou les niches de recettes où ils sont partis dénicher les 2,4% d'accroissement par rapport à ce que le gouvernement avait proposé, et aussi les mécanismes et les garanties, les mécanismes d'accompagnement et d'encadrement qui seront mis en place pour nous rassurer que ce surcroît des recettes sera effectivement réalisé au cours de l'exercice 2025. Mais c'est déjà une bonne chose, mais il faudrait que ces efforts soient faits pour arriver encore à améliorer la hauteur des recettes publiques.
Enfin, lors de son,
du côté
lors,
des dépenses.
L'EPS, oui. Peut-être une précision, lors de la présentation de ces rapports, le président de l'Ecofin a justifié cet accroissement avec de la révisitation du contrat sino-congolais qui ont essayé encore de renflouer le caisse.
Non, moi je... Bon, peut-être, je ne sais pas. En réalité, quand on parle de la révisitation du contrat chinois-congolais, nous avions déjà eu à discuter de cette révisitation. En réalité, moi je dirais, ils ont même étalé sur 5 ans la fréquence des paiements qu'ils devraient payer à l'État. Parce qu'en réalité, il n'y a pas un véritable accroissement des recettes qui proviendrait de ces contrats. On avait même proposé en son temps, parce que pour les Chinois, c'est comme si nous sommes encore dans la phase préliminaire où la SICOMI n'était pas encore créée, c'est-à-dire on faisait des avances à l'État et il y avait des rythmes de caissement pour permettre à l'État d'avoir les moyens afin de financer un certain nombre de travaux publics. Maintenant, aujourd'hui, nous nous sommes dit, bon, écoutez, près de 15 ans, 20 ans après, la SICOMI est déjà opérationnelle. Et aujourd'hui, la SICOMI est opérationnelle. Il y a les dividendes qui doivent provenir de ça. Pourquoi aller sur un rythme d'accroissement qui serait celui-là? Bon, c'est déjà un effort s'ils intègrent ça. Mais moi, je pense qu'il y a des niches fiscales, il y a des niches de recettes. Si on essaie de creuser davantage, on peut encore en faire. Mais nous pouvons déjà saluer cette avancée. Tant bien même, je reste un peu réservé pour dire que cet accroissement est imputable uniquement à la révisitation de ces contrats avec ces communes, parce que ces fonds n'ont jamais été décaissés et les fréquences de décaissement, je ne pense pas qu'ils induisent un accroissement aussi notable des recettes budgétaires.
Et alors, vous avez également cet aspect concernant la mise en place d'une commission d'enquête sur l'utilisation des fonds alloués au programme des 145 territoires, parce que la commission s'est rendue également compte des différents détournements des données publiques et des dépassements budgétaires. Qu'est-ce que vous en pensez?
Tout à fait d'accord, parce que vous voyez, ça devient de plus en plus une inquiétude au niveau de l'opinion publique. La plupart des projets qui ont été initiés dans le cadre de la volonté du chef de l'État et du gouvernement d'améliorer les conditions sociales ou économiques de la population, on se rend compte que il y a cette rhétorique-là des détournements qui revient. Et quand je regarde les mécanismes qui ont été mis en place avant le lancement du programme des 145 territoires, on ne pouvait pas s'imaginer qu'on aboutirait encore à des détournements comme on l'entend aujourd'hui. Parce que le gouvernement avait principalement choisi deux agences d'exécution qui sont les PNUD et les BSECO. Ce sont ces deux agences qui ont, je crois, essayé d'avoir la quasi-totalité des financements et qui choisissaient maintenant les différents exécutants sur le terrain. Maintenant, si on dit qu'il y a détournement des fonds qui étaient alloués à ces projets, ce détournement est situé à quel niveau? Est-ce qu'au niveau de ces deux agences ou au niveau des entreprises, des entrepreneurs et des sous-traitants qui étaient recrutés pour arriver à exécuter les marchés sur le terrain? Et moi, ce deuxième aspect, je ne peux pas tellement y faire confiance parce que je connais comment les PNUD fonctionnent ou les BSECO. Les fonds sont décaissés en fonction des jalons d'avancement des travaux. Les fonds ne sont pas décaissés totalement comme ça, on donne à un entrepreneur ou à une entreprise, exécute les travaux, après on viendra voir. Il y a toujours des fréquences de paiement qui dépendent des jalons au niveau d'exécution des travaux physiques sur terrain. Donc l'exécution financière est généralement parallèle à l'exécution physique. Si aujourd'hui on nous dit il y a détournement des fonds qui sont alloués à ces programmes de 145 territoires et qu'il faut mettre une commission d'enquête, alors là, il y a vraiment un souci. Et ce souci, c'est que on s'est dit maintenant à qui on va croire dans ce pays pour arriver à réaliser les projets. Parce que si de telles structures comme les PNUD et les BSECO se retrouvent aussi être aujourd'hui indexées parce que ce sont ces deux structures qui ont exécuté les gros du montant de ces travaux. Alors là, il y a des inquiétudes. Je crois qu'il faut qu'on pousse très loin et que ça ne soit pas seulement une commission d'enquête pour dire on va découvrir la vérité. Moi, j'aimerais plus plaider pour l'avenir de ces pays. Quel mécanisme on doit mettre en place lorsqu'on doit exécuter les projets? Comment on doit faire respecter les processus de passation des marchés tels que consignés dans la loi sur les marchés publics? Comment on doit aujourd'hui commencer à rationaliser les paiements de sous-traitants pour faire en sorte que, dans le cadre de tous les projets, l'exécution financière soit parallèle à l'exécution physique? Pas question de prendre sur un projet de 20 millions, vous payez à la personne 20 millions, il n'a jamais réalisé quoi que ce soit. Et ensuite, lorsque vous recrutez des sous-traitants ou des entrepreneurs, il y a toujours leur passé. On regarde si ces entrepreneurs, ces entreprises ont déjà eu exécuté des travaux similaires et ils doivent présenter des garanties bancaires, des garanties financières. Mais quand je vois l'ensemble de cet arsenal juridique qui a été mis en place et de toutes ces précautions, arriver à des détournements, alors on s'est dit ça ne peut s'opérer qu'à un niveau qui est un peu plus élevé. Et ça, c'est une inquiétude et nous devons réfléchir davantage pour trouver des mécanismes, rationaliser un peu tous ces processus d'attribution des marchés, des paiements des marchés publics, pour éviter que l'argent de l'État ne soit continuellement dilapidé.
Alors, vous avez une, idée,
que moi, je pourrais dire à mon niveau.
Est-ce qu'à votre niveau, vous avez peut-être des mécanismes dont vous estimez que ça pourrait aider les pays à l'avenir à éviter ces genres de détournements, des données publiques, des dépassements budgétaires, parce que simplement, c'est ça d'ailleurs la grande question, le travail qu'aura à faire cette commission, c'est de savoir à quoi a été réellement affecté cet argent, parce que pour les PDL 145 territoires, par exemple, il a dit l'argent qui a été affecté pour ce projet est vraiment qui a suscité un grand espoir au sein de la population. Mais par rapport à l'argent qui a été décaissé, par rapport au travail qui a été fait, et cela ne semble pas concorder. Alors, qu'est-ce que vous pensez quand vous parlez de mécanismes? Quel genre de mécanismes peut-on vraiment mettre en place pour qu'à l'avenir, on puisse bien contrôler tout ce qui est lié aux dépenses publiques?
Exactement. D'abord, en ce qui concerne les dépassements budgétaires, ça, je l'ai évoqué dernièrement dans une de vos émissions, je crois, Écho d'économie. Alors, en réalité, on a constaté que 70% du budget de l'État a été consacré au fonctionnement des institutions. Et là, nous avions donné comme recommandation, revenu sur cette recommandation maintes fois formulée, comment arriver à réduire les trains de vie des institutions publiques. Et aujourd'hui, les mécanismes pour réduire les trains de vie des institutions, les mécanismes sont connus. Comment on peut diminuer toutes ces dépenses qui n'ont aucun impact? Tous ces forums, toutes ces missions de services et tous ces ateliers où on reparle des mêmes choses et tous ces voyages. Regardez comment les membres des institutions, leurs cabinets, ils sont tout le temps partis. C'est-à-dire, aujourd'hui, le fonctionnement de nos institutions, si ça prend plus de 2/3 des dépenses des recettes budgétaires, il y a une inquiétude. Et même ce dépassement est constaté toujours au niveau des mêmes institutions. Je crois que là, nous avions dit, il est vraiment urgent que nous puissions voir comment rationaliser comment réduire les trains de vie des institutions et rationaliser les dépenses qui ne sont pas affectées vers les secteurs trop pauvres comme cela déjà a été la recommandation. Maintenant, par rapport aux différents projets, je venais de l'évoquer. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous devons changer la fréquence de décaissement. C'est comme si nous sommes dans le cadre de certains arrangements où il y a un marché de 100 millions et directement qui a été choisi. Parfois, le processus de sélection ou d'attribution des marchés publics n'est pas respecté. On prend des proches, on prend des gens qui sont connus, on prend des entreprises à qui on va exiger des effets retours. Si on est rigoureux au niveau du processus de passation des marchés, si on se rassure que les marchés sont donnés aux professionnels, aux gens qui ont déjà fait leurs preuves sur terrain, aux gens qui ont, aux sociétés qui veulent garantir leur honneur et leur intégrité sur le terrain, ça c'est déjà une première étape. La deuxième étape, c'est au niveau des décaissements, des paiements. On ne peut pas pour un projet de 30 millions, 40 millions, décaisser totalement les montants comme on le prend, ou décaisser 80%, pendant que sur le terrain, les travaux physiques n'ont pas atteint ce niveau. Les décaissements, ça fait partie des mécanismes où on regarde à chaque évolution des travaux, on se dit les travaux qui ont été exécutés, on peut décaisser telle tranche de paiement.
Donc, c'est-à-dire décaisser progressivement au fur et à mesure que le projet avance et s'assurer que
les travaux sont exécutés.
Tout à fait.
Exactement.
Alors, permettez.
Et ça évite que l'argent ne soit détourné.
Non, permettez, Lebs Kamoania, qu'on vous interrompt un petit moment. Pour nous, le temps de nous tourner vers le standard et puis on va revenir à vous. Nous avons déjà Marie-Paul Awa qui nous appelle depuis Kisangani et puis Maître Gaston Gandou qui est ici à Kinshasa. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine d'échange citoyen. Parole aux auditeurs. Et nous parlons aujourd'hui de ce rapport de la commission Ecofin sur le projet de l'important reddition des comptes pour l'exercice 2023 et 2000 et le comptable budgétaire 2024 qui a été adopté ce mardi à l'Assemblée nationale. Si vous voulez intervenir, composez 09 716 80 79.
Connaissez-vous la monkeypox? C'est une maladie virale contagieuse qui se transmet principalement par contact direct de l'animal trouvé mort ou malade avec ou sans signe de monkeypox à la personne non malade. Entre les hommes, la transmission de la monkeypox s'est faite à travers des lésions, voire plaies de liquide organique comme la sueur, des gouttelettes respiratoires, des objets souillés par des malades de monkeypox et le rapport sexuel avec une personne malade de monkeypox. Pour nous protéger contre la monkeypox, il faut éviter de toucher les animaux malades ou trouver morts sans cause, éviter tout contact physique ou sexuel avec une personne malade de monkeypox et éviter tout contact avec les objets souillés par des malades de monkeypox.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler gratuitement au 151 ou adressez-vous directement à un prestataire de santé ou à un agent de santé communautaire.
Marie-Paul Awa nous appelle depuis Kisangani. Marie-Paul, vous avez la parole.
Ça va, oui, ça. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi. Le journaliste, le moins qu'on puisse dire d'abord, c'est de remercier cette commission qui a bâti un travail de titan et un travail de routine, mais il est de toute évidence irréaliste de penser ou d'élaborer un budget dans un État où les finances publiques ne sont pas gouvernées. Et dans un pays où les finances, les gestionnaires, bien évidemment, ceux qui ont le pouvoir, n'observent pas les procédures ou les effets des décaissements aussi bien des dépenses. Et là, ça pose énormément de problèmes. Et déjà, avec cet état des choses, cette manière de gérer les finances publiques de l'État, il est difficile pour l'État en question qu'il puisse justement booster son développement. Et les rapports qui viennent de nous faire l'Ecofin ici, de la RDC, a fait un diagnostic sérieux où on a vu qu'il y a eu beaucoup de méandres, il y a eu beaucoup de difficultés liées à la gestion des finances RDC. Mais je trouve malheureusement que ces rapports-là ne vont pas résoudre les problèmes à la racine. Parce que si vous souvenez bien, c'est déjà dit, nous avons fait plus d'une fois des débats quant à c'est déjà des comportements que les gouvernants de la RDC.
Alors Marie-Paul, vous dites c'est du déjà entendu, du déjà vu, d'accord. Alors maintenant, vous avez suivi notre invité Lems Kamoania qui a proposé la mise en place de mécanismes pour ce qui est surtout du décaissement de l'argent, pour ce qui est de travaux. Il faut peut-être arrêter à cette façon de décaisser d'un coup autant d'argent et plutôt il faut le faire graduellement, de manière à se rendre compte que les travaux sont en train de s'effectuer. Vous pensez que ça peut être une bonne idée pour résoudre ces genres de questions liées au détournement des fonds publics, des dépassements budgétaires?
Oui, justement, parce que ce qui est nécessaire pour notre pays urgent est que tout commence d'abord par la gouvernance des finances. Parce que tout ce que l'invité a invoqué là-bas, ça relève de la gouvernance. On ne peut pas voir des institutions qui engagent des dépenses au-delà de leur ligne budgétaire. Ça ne peut que se faire au Congo. Ailleurs, on doit vous rappeler parce que toutes les dépenses sont suivies. Il y a des gens qui suivent qui a fait quoi par rapport aux lignes budgétaires. Est-ce qu'il est dans les ou pas? Mais on trouve déjà des institutions On n'est même pas à la fin des années, des institutions ont vidé déjà les montants et ils sont en dépensement.
Voilà,
donc,
merci.
C'est véritablement un problème.
Merci Marie-Paul Awa depuis Kisangani, Kinshasa. Maître Gaston Gando est en ligne. Maître Gaston, vous avez la parole.
Bonjour Marcel, je savais que l'invité qui est avec vous. Je pense que nous sommes... D'abord, je me pose la question si la Cour des comptes existe dans ces pays. Si elle existe, quel est réellement son travail? Nous sommes très contents de l'accroissement que vous venez de faire à l'addition des recettes. Mais la question que nous nous posons, c'est ces recettes-là vont satisfaire quelles dépenses? Ce serait plus détourné. Et puis, on a intérêt à comprendre, à connaître quels sont les... d'où viennent ces nouveaux recettes qui n'étaient pas prévues au budget initial. On puisse un peu nous éclairer là-dessus. Mais moi, je réinsiste qu'on n'a pas que besoin des recettes ou d'accroissement. On a aussi besoin que ces recettes-là puissent couvrir normalement les besoins qui étaient prévus. Mais si c'est pour satisfaire les besoins des individus, moi, je pense que l'accroissement qu'on est en train de faire à Lision ne va profiter à personne. Mais je voulais aussi avoir un peu une idée. Moi, je sais que dans l'exécution de chaque budget, il est prévu le mécanisme de suivi. Et ce suivi-là est censé se faire à tout moment. Et lorsqu'on constate des bavures, on est censé dénoncer, non seulement dénoncer, et puis mettre hors d'état de nuire ceux qui seront attrapés. Mais on a l'impression comme si ici on attend que tout se passe et puis on dénonce et après quoi il n'y a plus rien. Et pourtant, moi j'imagine que lorsque on parle de choses comme ça, on devrait avoir des gens qui sont arrêtés, jugés, traduits devant des cours et tribunaux pour des détournements, des trucs comme ça.
Pour vous, maître Gaston Ngandou, vous estimez que avec cette commission qui va être mise en place pour enquêter sur l'utilisation des fonds alloués, notamment au programme des 145 territoires, il faut que tout se passe de façon à ce que les auteurs peut-être de ces détournements des deniers publics soient traduits en justice. Cela pourrait être une bonne chose. C'est bien cela.
Oui, c'est cela, mais moi je préfère ne pas parler de la commission qu'on veut créer parce que je sais qu'il y a des mécanismes qui sont là. J'ai parlé de la Cour des comptes bien de tantôt là. Vous savez que si vous lisez bien la loi, vous verrez que la Cour des comptes, c'est le mécanisme approprié pour mener des enquêtes. Voilà. Moi je pense qu'on doit, au lieu de créer quelque chose de plus, il faut, mais je me pose aussi la question si cette Cour-là, si ça existe réellement. Hein, l'invité voilà, qui est là, il peut nous préciser quelle est la mission réelle.
Merci.
Dans la Cour dans l'exécution du budget d'un État.
Merci, maître Gaston Gando depuis Kinshasa, Kisangani, je pense, mais c'est plutôt à Lubumbashi. Nous avons Jérémy Mamba qui est en ligne. Jérémy, vous avez la parole.
Bonjour, monsieur Marcel. Hein. Bonjour également à l'invité. Certes, nous saluons l'adoption en ce mardi 30 octobre 2024 du rapport bien évidemment présenté par la commission ECOFIN sur le projet de loi portant l'édition des comptes pour l'exercice 2023 et les collectifs budgétaires 2024. Il faut aussi relever en fait ce que nonobstant la retouche, n'est-ce pas, à la hausse des recettes perceptibles, mais contrairement bien sûr à l'exercice passé, ben, je le dis, rien n'est encore joué en amont. Déjà, c'est déjà un bon signe, mais en aval, c'est là qu'il y a des soucis parce que des problèmes se posera toujours. Nous avons des textes vraiment qui sont en bonne santé. Cependant, la gestion, n'est-ce pas, présente, n'est-ce pas, la médiocrité et n'est-ce pas criante. Et alors, moi, je voudrais dire ceci, n'est-ce pas? Parce que ce qui se passe actuellement dans l'hémicycle, c'est du déjà vu, du déjà vécu. Alors, il se pose toujours un problème du respect, n'est-ce pas, efficace des étapes de la réduction des comptes, qui fait qu'ils veulent à ce que, d'abord, que l'on puisse d'abord solder efficacement et objectivement, n'est-ce pas, des produits des charges. Deuxièmement, que l'on puisse arrêter, n'est-ce pas, les comptes du grand livre, etc. Et troisièmement, que l'on puisse aussi stopper d'abord les écritures du grand journal. Ici, aussi longtemps que on ne peut pas arriver à rectifier, n'est-ce pas, les tirs, si les tirs illétéraux dans les fonds et dans la forme et non dans les fonds, moi je me dis que il n'y aurait rien à espérer parce que vous savez, ce qui intéresse beaucoup plus le peuple congolais, c'est plus le fond. Alors la réduction des charges doit aussi également viser à ce que doit présenter de manière détaillée les dépenses réelles engagées par toutes les parties. Ça, c'était un fait. Alors, ici, nous sommes en train de voir que ça fait vraiment beaucoup plusieurs décennies que la réduction des comptes dans notre pays est totale et sont, donc, ça dit, est totale aux abonnés absents. Alors, je préfère ceci pour pallier à ce problème parce que vous savez, et ce qui échappe à la réduction des comptes dans notre pays, c'est qu'il doit être, si elle doit être vraiment, si les choses peuvent être coordonnées, il faut qu'il y ait la bonne gestion des dépenses publiques qui doit permettre de réaliser le programme public à l'état de ceux donc présentés par donc c'est-à-dire initié par les chefs de l'État dont le plus emblématique c'est celui des 145 territoires.
Voilà, merci.
Mais malheureusement sur le terrain étouffé par les gestionnaires. Oui, je voudrais terminer par les n'est-ce pas les gestionnaires qui sont là avec les problèmes de détournement. Alors ici, je voudrais terminer pour dire ceci. Si nous voulons réellement que les choses marchent comme il se doit, il faut d'abord un qui est d'abord la bonne gouvernance.
Ouais, vous l'avez déjà dit, il faut la bonne gouvernance. Merci Jérémy Mamba, vous l'avez déjà dit, on ne va pas se répéter. C'est bien compris. Merci Jérémy Mamba d'avoir appelé depuis Lubumbashi. On reste à Lubumbashi pour écouter Maître Patrick Odia. Maître Patrick, vous avez la parole.
Bonjour Marcel, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Capi. Merci de m'associer à ce niveau du débat. Il n'y a pas de crime en finances publiques et des détournements et la malgestion également, la mauvaise gouvernance. Nous l'avons déjà dit que chaque année, il y a toujours de dépassements budgétaires. Mais ces dépassements budgétaires, au moins avec la commission Ecofin de cette fois-ci, nous a non seulement révélé qu'il y a eu détournement, également a mis en place une commission, mais nous demandons à ce que l'Assemblée nationale puisse continuer la mise en place d'une commission en est une autre. Le travail effectif avec la rigueur de cette commission, c'est une autre étape également. Les résultats de cette commission également, c'est une autre également étape. Et l'exécution ou l'évaluation ou l'application des recommandations issues de cette commission, c'est également une autre étape. Quelle est la différence cette fois-ci ou quelle est la garantie que nous avons que les dénonciations faites par l'Ecofin et l'Assemblée nationale auront au moins des sanctions qui suivront après ces actes de mal gouvernance ou de mauvaise gouvernance également. Quel est l'élément de distinction entre ce qu'on a eu à dénoncer dans le régime passé ou dans l'année passée dans l'autre budget et cette fois-ci qu'on a eu à dénoncer également? Je pense que s'il y a des gens qu'il faudrait directement sanctionner sévèrement, ce sont les gens, le ministre et certains députés qui se trouvent aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale. Nous demandons par urgence que la commission puisse également prendre en compte la levée des immunités pouvant permettre à ce que les gestionnaires ayant manipulé les fonds de l'État puissent être traduits devant les juridictions et cela donnerait un peu plus de l'exemplarité à d'autres gestionnaires actuels pouvant peut-être avoir le souci de commettre également les mêmes bavures. Mais dès lors qu'on va dénoncer, on va mettre des commissions mises en place, mais qui, à la suite, il n'y aura pas de sanctions, je pense que ça ne va pas nous permettre de pouvoir avancer. C'est ici les liens d'encourager. Nous avons dit que le programme des 145 territoires était un bon programme, mais seulement que la gestion financière n'était pas adéquate, n'était pas efficiente. Mais au jour d'aujourd'hui, on nous donne raison et le président et la commission nous donnent toujours raison, mais autrefois on nous avait taxé de tout ceci et de tout cela. Qu'est-ce que nous demandons? La rigueur, l'application immédiate des sanctions. Et dans un pays normal, nous devrions peut-être demander à ce que certains missionnaires, notamment les ministères du budget, des finances et autres, tous les éléments ayant entré dans la ligne de dépenses également devaient directement être entendus et interpellés à la justice, par la justice, et des mesures administratives également devaient être prises. Mais au jour d'aujourd'hui, l'Assemblée nationale tarde encore. Nous demandons à ce que ces gens présumés, parce qu'ils usent encore de la présomption d'innocence, mais soient déférés également. Mais le chef de l'État, il se permettra par après de pouvoir les défendre qu'il y a eu la présomption d'innocence. Non, il y a eu des faits de mégestion qu'il faudrait corriger. Et c'est ici où nous interpellons l'Assemblée nationale de ne pas s'arrêter à la mise en place d'une commission, mais d'aller au-delà. Voilà. Puisque la sanction, qu'elle soit judiciaire, qu'elle soit législative, qu'elle soit administrative, et même priver à certaines personnes également leurs droits politiques également, ça occasionnerait un exemple
tant ça fait dans la gestion de bonne gouvernance.
Voilà, nous merci. Savons finalement dans cette... Merci, maître Patrick Odia. Vous insistez également, comme le pasteur Jérémy Mamba, la sanction. Sans sanction, rien ne changera dans ce pays. La commission d'enquête qui a été mise en place sur les fonds qui ont été décaissés pour différents programmes, notamment celui des 55 territoires. Il faut absolument que cette commission puisse faire son travail jusqu'au bout et sanctionner les auteurs concernés par tous ces détournements. Merci, maître Patrick Oda depuis Lubumbashi. On va cette fois-ci aller à Bounia pour écouter Tagamile. Jonathan Tagamile, vous avez la parole.
Oui, merci Marcel et merci de m'avoir associé aussi à ce débat.
On vous écoute, allez-y.
Oui, ok. Merci d'avoir associé. Comme je l'avais dit, j'ai suivi l'intervention avec beaucoup d'intérêt. Mais je voudrais aborder cette thématique dans le sens de la réduction des traits de vie des institutions. Il a dit, et j'ai écouté avec beaucoup d'amertume, lorsqu'il nous présente le cas de dire que seules les institutions de la République ont un dépassement de à peu près 2/3 du budget de l'État. Vraiment, c'est tout à fait énorme. Lorsque seulement les institutions prennent les 2/3, mais... c'est quoi dans ce sens? Je voudrais dire quelque chose par rapport au déplacement des chefs de l'État. Vous savez, cher Marcel, cet aspect, nous ne devons pas ignorer que seul le déplacement des chefs de l'État d'un pays, de la RDC vers un pays, ça nous coûte énormément beaucoup d'argent. Alors, on se demande, cet argent est tiré d'où? Est tiré de la caisse de l'État? Alors, moi, à mon simple avis et mon humble avis, je pensais que si on pouvait aussi réduire dans ce sens, donc c'est-à-dire essayer de rationaliser le déplacement, les mouvements des chefs de l'État et même de ses animateurs du gouvernement, je pense que ça serait aussi une alternative pour essayer un peu de ça soit fait soulager ou soit de diminuer ce déplacement budgétaire. Nous disons coup de chapeau à la prévoyance de notre Parlement. Justement pouvoir instituer, pouvoir justement créer une institution qui pourra, une commission qui pourra justement faire le suivi et le contrôle de tout ce dépassement et de déférer justement toute personne qui aurait contribué dans la fraude ainsi que le détournement des deniers publics et pour que ces gens soient arrêtés.
Merci. Vraiment, moi, merci beaucoup.
Le déplacement des chefs de l'État, je pense que ça pourrait aussi être tant soit fait une solution pour réduire le déplacement budgétaire.
Merci beaucoup Tagamile. Jonathan, depuis Bounia, on va aller à Vienne pour écouter Franck. Et ensuite, on va revenir à notre invité, Lems Kamwania, analyste économique. Franck, vous nous appelez depuis Vienne, en Autriche. Vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup pour l'accorder. Bonjour à tout le monde. Mon cher frère Marcel, nous sommes des citoyens congolais, nous suivons ce qui se passe chez nous et ailleurs. Je fais d'abord mien tout ce qui vient déjà d'être dit, mais il faut peut-être seulement ajouter que pour se développer dans un pays ou dans un État, il faut des gammes de préalables. Il faut avoir de la volonté politique, il faut avoir de la détermination, il faut avoir une planification et il faut aussi d'abord arriver à se soumettre aux textes légaux qui vous régissent et aussi respecter les principes de gestion au niveau de l'État. Mais si dans un pays, tous ces préalables ne sont pas respectés, et on irait, on revient et on fait semblant d'avancer alors que on est en train de faire du surplace. Tout ce qui est en train de se faire constater ici, c'est pas pour la première fois. Mais déjà au niveau de l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire, si les députés se rendent déjà compte qu'il y a des malversations financières, qu'il y a des actes, des indices de détournement, qu'il y a des dépassements budgétaires, qu'il y a parfois des paiements de dettes intérieures sans identification, personnellement, je trouve que on ne s'arrêterait pas seulement de dire « nous allons constituer une commission d'enquête » parce que ils sont déjà en possession de quelques indices, mais ils devaient déjà arriver à frapper. Mais nous avons maintenant quel parlement avec quelle conviction, nous avons quel parlement qui ferait quel travail. Et Maître Patrick Odia venait de le dire, parfois ça nous gêne, nous analystes, nous observateurs, de présenter nos vues, nos avis, parce que si vous devez vous mettre à analyser convenablement, en ciblant tel, demain quelqu'un viendra vous dire, c'est un père de famille, c'est un responsable, on ne doit pas donc, bref, en RDC, même s'il y a des indices de détournement, nous devons nous taire. Mais nous allons avancer comment si c'est du jour au jour qu'on ne nous parle que des détournements, des actes de la mauvaise gouvernance, tout ça. C'est comme ça que quand nous allons chercher à nous cacher derrière des alibis que la Constitution nous bloque, mais pour opérer ce dépassement budgétaire, la même Constitution ne nous bloque pas. La Constitution nous bloquerait seulement si on doit appliquer les articles qui exigeraient que tout le monde se retrouve au niveau du social. Bref, sans volonté politique, sans rigueur, sans suivi, sans contrôle parlementaire efficace, sans sanction avec ce régime des impunités, on ne va jamais avancer. Et le problème, c'est l'homme congolais qui doit encore se redéfinir, se reconvertir et se poser autant de questions par rapport à son avenir collectif dans son état.
Voilà, merci beaucoup Franck depuis Vienne. Avant de retrouver notre invité Lems Kamwanya, qui est analyste économique, deux réactions, je lis quand même quelques réactions sur la page Facebook par nos auditeurs. Il y a cette réaction des généreux Mupandi depuis Kananga. Personnellement, je suis content du travail abattu par cette commission, mais je voudrais qu'il puisse suivre les enquêtes pour savoir la destination des fonds qui étaient alloués au PDL 145 territoire, un programme qui a suscité beaucoup d'espoir dans la population qui a espéré voir ses conditions de vie être améliorées, tant soit peu, que ceux qui auraient détourné les fonds alloués à ces programmes rendent compte et qu'ils soient sévèrement punis. Inspecteur Jacques Befonga nous écrit aussi depuis Kisangani, les rapports de la commission Kofini présentent des aspects à la fois positifs et préoccupants. L'augmentation de recettes budgétaires de 20,4% pour 2024 est encourageante car elle peut indiquer une volonté d'améliorer les finances publiques et de soutenir le développement économique. Cependant, les préoccupations soulevées concernant les détournements des fonds et les dépassements budgétaires sont inquiétantes. Voilà, ça c'est l'inspecteur Befonga, Malo depuis Kisangani. On revient à notre invité, Lems Kamwanya, analyste économique. Lems, vous avez suivi les interventions des uns des autres, là, ceux qui ont insisté par rapport à ceux qui a d'abord encouragé ce travail abattu par la commission Ecofin de l'Assemblée nationale, mais ils estiment également il faut, pour ce qui est des différents détournements, des deniers publics et des dépassements budgétaires qui ont été constatés, et avec cette commission qui a été mise en, cette commission d'enquête qui a été mise en place notamment sur l'utilisation des fonds alloués au programme des 5 enseignants. Il faut que le travail se fasse jusqu'à ce que les personnes qui seront concernées pour les détournements de ces fonds soient sanctionnées, mais il y a ceux qui estiment également que la bonne gouvernance dans ce pays, c'est seulement une question de volonté politique et non pas seulement de sanctions, mais il faut qu'il y ait également de la volonté politique. Lems Kamwanya.
Oui, merci beaucoup. Merci une fois de plus. J'ai suivi les interventions des différents auditeurs. Et je pense, comme je l'ai indiqué au début de mon intervention, vous voyez aujourd'hui, si les gens continuent à entendre toujours la même rhétorique, on a détourné, il y a dépassement budgétaire, et ça donne des inquiétudes, et les gens concluent comme la plupart des auditeurs en disant qu'il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de mauvaise gestion du pays, et ça ce n'est pas un bon signal lorsqu'on sait que il y a un gouvernement qui est en place, qui a des obligations à rendre vis-à-vis de sa population. Parce que l'argent qui est détourné et qui est mal utilisé, c'est l'argent qui est payé par les contribuables congolais. Alors, vous pouvez comprendre aujourd'hui pourquoi il y a cette crise de confiance au niveau de la population avec les gouvernants, en estimant qu'ils gèrent mal les moyens qu'on met à leur disposition. Et ça, ça devrait interpeller les différentes institutions pour dire, nous avons été désignés par la population pour être au service du peuple. C'est ça même l'essence de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais il ne faudrait pas que les derniers pour le peuple ne soient pas pris en compte parce qu'on pense que ceux qui sont au pouvoir, ils se servent. Et quand il y a les détournements, ça devient une chanson qui revient. Les gens ne sont pas arrêtés, les gens sont laissés libres là de circulation. Et ensuite, on met en place des commissions d'enquête qui n'aboutissent jamais et on ne voit pas l'application des recommandations. Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour a renvoyé un autre signal, montré que il y a de la fermeté, il y a de la volonté d'agir en faveur de la population et d'arrêter tout ce qu'il y a aujourd'hui comme mauvaise utilisation des ressources publiques. Je pense que ça c'est vraiment un message fort qui doit provenir de la part du gouvernement et des institutions qui gèrent notamment les fonds publics pour donner vraiment ces gages de confiance vis-à-vis de notre population.
Alors, un petit commentaire par rapport à, il y a également cette question des dépenses publiques exécutées en procédure d'urgence. Il semblerait que là également, il faut quand même mettre de l'ordre.
Exactement. Quand on dit procédure d'urgence, c'est une exception. Mais ici, chez nous, dans notre pays, on a comme l'impression que l'exception est devenue la règle. Et les dépenses en procédure d'urgence, cela signifie vous êtes en train de ne pas respecter tous les prescrits de la chaîne de la dépense publique. Et pourtant, les différentes étapes de la chaîne de dépense publique, c'est autant d'étapes de contrôle pour éviter une mauvaise utilisation des ressources publiques. Lorsqu'on procède à l'exécution des dépenses en procédure d'urgence, c'est-à-dire vous sautez toutes les étapes de contrôle qui sont prévues, et c'est là la voie ouverte à cette mauvaise utilisation des fonds. Et c'est là la voie ouverte à tous ces dépassements qu'on vient constater à la fin, parce que les services qui gèrent, vous sollicitez une somme, on ne sait pas si le crédit est encore disponible ou le crédit est déjà épuisé. Je crois qu'on devrait éviter, et même quand vous voyez dans la loi des finances, il a été prévu à quel moment on peut recourir à exécuter les dépenses en procédure d'urgence. Il ne faut plus qu'on en fasse une règle, c'est une exception. C'est vraiment une exception, parce que si on est là-dedans, ça c'est déjà une preuve de la mauvaise gestion des finances publiques, parce que c'est comme si vous êtes en train de sauter et de contourner l'ensemble des mécanismes et des contrôles qui ont été mis en place avant de valider les paiements d'une dépense publique.
Alors, vous avez certainement suivi depuis sa prise de fonction, en tout cas la première ministre avec son gouvernement ont ramené le paiement en urgence de 49 à 6%, et vous estimez que c'est une bonne chose, j'espère que cela s'avère réel, c'est une bonne chose, c'est à encourager.
C'est des efforts à saluer et des efforts qui doivent se poursuivre. D'accord. Si on peut se retrouver à moins de 5%, ça serait en tout cas l'idéal. Vraiment, en faire une exception, non pas en faire la règle.
Voilà, on va prendre un autre auditeur, c'est Paul Malala qui nous appelle depuis Kinshasa. Il se présente comme un politologue. Paul Malala, vous avez la parole.
Bonjour à tous les auditeurs de PA. Je suis en train de dire par ici que notre justice congolaise se redresse. La justice est en train de faire un travail consistant. Ce sont des efforts quand même à féliciter avant de passer par toute autre analyse. Mais il s'avère qu'au-delà de notre justice, il y a des décisions de la justice qui sont inefficaces. C'est ce qui encourage les détourneurs à continuer à faire ce travail. Parce que la décision de la justice, une fois rendue, par exemple, tel M. X ou M. Y est condamné. Nous avons suivi, par exemple, le procès public ici concernant les détournements des deniers publics. Tout le monde en a suivi. Tout Congolais était satisfait. Rendez-vous compte, monsieur le journaliste, tout au début, parce que c'était une première fois dans l'histoire de notre pays, de voir des procès publics et des condamnations sur ceux qui auraient commis des détournements des deniers publics. Ici, dans notre pays, c'est ça se trouve dans nos lois, mais ça n'a jamais été appliqué. Mais il y a au-delà de tout les politiques qui s'interposent pour rendre inefficaces ces décisions-là. Aujourd'hui, vous-même, vous le savez, M. X est déjà amnistié, il est déjà tout ça. Et on libère quelqu'un qui n'a totalisé que 6 mois, 9, l'avait infligé une peine allant de 5 à 20 ans, par exemple. Lorsque cette pratique se répète à 2, 3, 4 reprises, sur peut-être 5 individus, il y a eu à détourner l'argent de l'État. N'est-ce pas ça encourage les autres à se plonger dans les détournements. Donc, on dit ici un esprit sain dans un corps sain. Maintenant, la commission ECOFIN vient de dénoncer. C'est très bien. Mais la commission, si on ne tire pas attention, la commission ECOFIN va toujours continuer à dénoncer et demander à ce que la justice fasse son travail, mais le travail ne se fera pas efficacement. Parce que il y a les politiques qui sont en train de, je ne voudrais pas les répéter, lorsque nous disons un esprit sain dans un corps sain, c'est-à-dire, nous constatons nous-mêmes que l'Assemblée nationale elle-même fait partie du problème, parce que c'est là où le détournement a commencé. Prenons par exemple, il y a les cas de 13 députés nationaux fictifs au lieu de 500 reconnus dans notre constitution. Mais où va cet argent-là? N'est-ce pas ça les antivaleurs qui contribuent à ce que nous avons combattu hier? Alors pour moi, pour que nous arrivions vraiment à élaguer ou à redresser notre justice pour décourager les détourneurs, je voudrais que les politiques laissent la politique et la justice libre. La justice agir en tant que elle-même, en tant que justice. Et à ce moment-là, je vois que il y aura un changement.
Voilà.
Il
n'y
aura pas assez
merci.
De les cas de détournement.
Merci beaucoup Paul Malala. Vous aussi, vous insistez qu'il faut absolument des sanctions. Il faut également la justice de bien faire son travail. Moi aussi, à l'Assemblée nationale, on a fait plusieurs émissions par rapport à cette nouvelle législature. On a suivi également les discours du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui a insisté que cette Assemblée nationale va pleinement jouer son rôle de contrôle parlementaire et surtout de communiquer davantage pour essayer d'éclairer la lanterne des Congolais sur certaines questions qui peuvent soulever une certaine polémique. Merci Paul Malala Tamboué d'avoir appelé des Kinshasa Akalemi. Eric Herry est en ligne, il est conseiller communal. Eric Herry, vous avez la parole.
Merci beaucoup Marcel et merci de m'avoir apporté la parole pour aussi apporter ma réflexion à ce sujet ici. C'est vrai, comme nous avons suivi tous, ça a été dit par le président de l'Assemblée nationale qui a eu un dépassement budgétaire. Et lui-même dit que il s'étonne que un certain montant de caissés vraisemblablement n'a pas servi objectivement. Mais pour moi, à la suite de ces constats, dire qu'on va constituer une commission d'enquête pour voir.
Eric Herry, vous êtes une des plus en ligne. Eric Herry, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec sa ligne. Voilà, il est conseiller communal à Kalemi. Alors, avant de revenir à notre invité, à Lems Kamonia, j'étais en train de lire cette réaction de l'inspecteur Jabé Fonga, que j'avais pas fini pour écouter les auditeurs. Il nous écrivait ceci, il nous a écrit ceci sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Les rapports de la commission ECOFIN présentent des aspects à la fois positifs et préoccupants. L'augmentation des recettes budgétaires de 20,4% pour 2024 est encourageante, car elle peut indiquer une volonté d'améliorer les finances publiques et de soutenir le développement économique. Cependant, les préoccupations soulevées concernant les détours des fonds et les dépassements budgétaires sont inquiétantes. La proposition de créer une commission d'enquête sur l'utilisation des fonds pour les PD 145 territoires est une mesure nécessaire pour garantir la transparence et la responsabilité. Cela pourrait aider à restaurer la confiance du public envers les institutions. Enfin, l'accent mis sur les secteurs vitaux comme la santé et l'éducation est crucial, car ces domaines sont essentiels pour le bien-être des citoyens et le développement durable du pays. On va prendre le tout dernier auditeur et puis on va finir avec notre invité, Lems Kamonia. Yves Laurent, vous nous appelez de Kinshasa. Vous avez la parole pour 1 minute 30 secondes. Allez-y.
Merci beaucoup. Bonjour Marcel Ngomombala. Merci pour cette opportunité. Je pense que le budget est un outil très important dans la matérialisation du développement de l'État. Je pense que l'adoption par l'ECOFIN de ces collectifs budgétaires, vraiment c'est très important. Je pense que même le président de la commission ECOFIN a épinglé quelques secteurs vitaux qu'il veut s'atteler. C'est vraiment très important. Mais ce qui est vraiment déplorable, ce sont les dépassements budgétaires. Parce qu'on se rend compte que le budget, d'abord, a un caractère social. Mais aujourd'hui, le budget a perdu sa nature. Il devient aujourd'hui politique. Parce que vous vous rendrez compte que la plupart des institutions politiques, ce sont elles qui consomment le budget. Mais en termes de résultats, impact visible aussi le vécu quotidien des Congolais, et rien n'est fait. C'est pourquoi nous demandons à l'Assemblée nationale vraiment que le budget vraiment soit respecté, que les secteurs vitaux soient vraiment respectés. Parce que malgré que le Parlement c'est l'autorité budgétaire, mais il devait aussi tenir compte des aspects sociaux, chers journalistes. J'ai beaucoup à dire, mais à des fois le temps. Merci beaucoup, bonne journée.
Voilà, merci. Mais vous avez également, comment dire, applaudi ce rapport de la commission COFIN de l'Assemblée nationale, et vous souhaitez que la commission d'enquête qui sera mise en place, notamment sur l'utilisation des fonds alloués au programme des 145 territoires, puisse faire son travail, et que les personnes concernées par les détournements des fonds alloués au pays des 145 territoires puissent répondre de l'exact devant la justice. Merci beaucoup. Yves Laurent, on va cette fois-ci retrouver notre invité Lems Kavonia pour conclure. Lems, vous l'avez dit, il faut mettre des mécanismes qui vont permettre de faire un suivi sérieux par rapport à tout ce qu'il y a comme passation des marchés, par rapport au décaissement, et surtout toujours s'assurer que lorsque l'argent est affecté à un programme, l'argent est bel et bien affecté à ce programme, et s'assurer que tout se passe bien, et au contraire, toujours sanctionner les auteurs des détournements. Lems Kavonia.
Oui, exactement. Je pense que la bonne gouvernance, ce n'est pas un slogan creux. La bonne gouvernance obéit à des règles, obéit à des principes, obéit à des procédures, et ce n'est pas quelque chose de sorcier qui est assez compliqué. Je pense aujourd'hui, en ce qui concerne la gestion des finances publiques, déjà quand on vous parle de la loi des finances, cette loi des finances n'indique pas seulement les différentes sommes qui sont contenues dans les différentes rubriques dans les budgets de l'État, mais on vous donne aussi les règles pour l'utilisation de donc la consommation des dépenses publiques. Et ces règles-là sont accompagnées par d'autres lois, comme la loi sur la passation des marchés. Et il y a aussi les décrets qui organisent les différentes modalités. Il y a des institutions qu'on a mis en place, la Direction générale des contrôles des marchés publics, l'autorité de gestion des marchés publics. Toutes ces institutions qui ont été mises en place, elles ont été mises en place pour faciliter l'État, pour faire respecter la loi, faire respecter les procédures, afin d'éviter qu'il y ait une utilisation abusive des dépenses, donc des recettes publiques. Je crois que il faut recourir à ces institutions, il faut faire respecter ces principes. C'est ça même qui va nous conduire à la bonne gouvernance. Et lorsqu'il y a des contrevenants ou ceux-là qui utilisent mal les recettes de l'État, ils doivent être sanctionnés pour donner un exemple et éviter que tout le monde pense que on peut les faire, on détourne l'argent, on va corrompre les juges et ensuite on va se retrouver en liberté. Là, nous risquons d'entraîner la faillite de l'ensemble du système et cela peut conduire à l'écroulement de toute une nation. Je crois que c'est, il est vraiment important qu'on rentre vers les mécanismes d'orthodoxie financière et budgétaire, qu'on rentre sur les mécanismes de respect de la loi sur le marché public, les différents contrôles qui doivent être exécutés, éviter de recourir chaque fois à ces procédures de paiement en procédure d'urgence, qu'on évite de payer intégralement les marchés sans que l'exécution physique ne soit compatible à l'exécution financière. Toutes ces règles, tous ces principes, toutes ces procédures existent et des institutions qui sont là pour veiller à ça, elles sont en place. Si on peut les laisser fonctionner, je pense que on verra que la bonne gouvernance est quelque chose qui est à notre portée.
Lems Kavonia, analyste économique, merci d'avoir été des nôtres. Nous espérons vous retrouver prochainement dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. Merci et bonne journée à vous. Fin de ce numéro de Parole aux auditeurs de ces jours. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Paul Badianyama qui est à la mise en onde. Je lui fais un bon godin qui l'a réalisé et coordonné au micro. C'était Marcel Ngomoubala. Très bientôt dans un prochain numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, bon suivi des programmes sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.